Gloire au Seigneur. Alors nous sommes heureux d'être ensemble dans la présence du Seigneur. Nous sommes heureux d'être avec lui. Et j'aimerais vous saluer à chacun d'entre vous qui sommes ici, dans cette salle, peut-être en bas. Et en tout cas, je salue également tous ceux qui sont en face de leurs écrans, écrans d'ordinateur, écrans de tablette, écrans de téléphone. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse cette journée tout entière. Gloire au Seigneur. Voilà, j'aimerais faire deux lectures avec vous dans la parole de Dieu, bien sûr. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4 et verset 1er. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4 et verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Une deuxième lecture dans la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre. Chapitre 1 et le verset 10. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1 et verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en disant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordé. Que Dieu bénisse pour nous sa bonne et précieuse parole. Amen. Alléluia. J'aimerais vous parler ce matin de notre vocation, de la vocation chrétienne. De la vocation chrétienne, car dans la parole de Dieu, il en est souvent question, soit sous le terme de vocation, soit sous le terme d'appel. Votre appel ou votre vocation, ce qui est synonyme, pardon, et qui veut dire la même chose. Mais qu'est-ce qu'une vocation? Au sens général du terme, qu'est-ce que c'est qu'une vocation? D'après le dictionnaire, c'est une destination naturelle ou un penchant naturel, ou une aptitude innée, naturelle, pour un mode de vie particulier. Ou alors, tout simplement, un métier. Un métier et que l'on exerce avec passion. Par exemple, tel cuisinier, dont on dira qu'il aime tellement et qu'il fait tellement bien son métier, que c'est un cordon bleu ou alors un grand chef. C'est un grand chef. Ou alors un pâtissier. On dira, il est né dedans. Il est tombé dedans. Ou alors, il fait ce métier parce qu'il a été créé pour ce métier. Il est né pour faire ce métier. Il a été créé pour faire ce métier-là et pas un autre. Et j'aimerais mettre le point sur cette expression, ce verbe créer, ou sur le mot création. Car la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, quiconque est en Christ est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Je préfère le mot création que créature. Ce qui revient au même. Quiconque est en Christ, quiconque se dit chrétien ou est réellement chrétien, il n'a pas seulement le nom sur le front, ou l'habitude d'être traité comme tel, mais qu'il est réellement au plus profond de son cœur et dans sa vie de tous les jours, c'est un vrai chrétien, alors lui, c'est une nouvelle création. Il n'est pas né chrétien, personne ne naît chrétien. On le devient. Et vous l'êtes devenu chrétien parce qu'un jour, il vous a été fait la grâce de naître de nouveau. Alléluia! Il vous a été fait la grâce de naître de nouveau et ainsi de devenir une nouvelle créature, une nouvelle création par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les accomplissions. Nous sommes son ouvrage. Et nous avons été créés pour quelque chose, dans un but bien précis, pour une tâche bien précise. Nous sommes donc devenus chrétiens pour servir Dieu. Amen. Nous sommes devenus chrétiens non pas pour nous servir de Dieu, mais pour servir Dieu. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient se servir de Dieu. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, sinon je me fâche. Nous sommes devenus chrétiens pour servir Dieu, bien sûr, et pour accomplir ses desseins, pour accomplir sa volonté. Nous avons donc reçu vocation ou un appel de Dieu, je le disais, pour exercer un sacerdoce. Et tous les chrétiens ont un sacerdoce à exercer. Qu'est-ce qu'un sacerdoce ? Un sacerdoce, c'est un exercice, un travail spirituel et ne peut s'appliquer que dans le monde spirituel, que dans le monde religieux mais spirituel. Nous exerçons, et tous les chrétiens ont un sacerdoce à accomplir pendant tous les jours de leur vie parce qu'ils ont pour objectif le salut des pécheurs. Amen. Ils ont pour objectif le salut des âmes perdues qui les entourent ou pas. Mais il y en a dans le monde des quantités, bien sûr. Alors, dans le cœur du chrétien, il y a une passion, il y a un appel, il y a une vocation. Il veut servir Dieu pour être entre les mains du Seigneur, un objet de bénédiction, un objet de salut pour le monde qui l'entoure, bien sûr. Et cette vocation, elle peut avoir différents aspects, mais j'en citerai 4 ou 5. Les aspects de notre vocation. Nous sommes donc devenus chrétiens pour servir Dieu, pour exercer ses desseins. Nous avons donc reçu un appel pour exercer un sacerdoce. Et je le disais, ce sacerdoce peut avoir plusieurs aspects. Appelé, et la première vocation, nous l'avons lu, nous avons été appelés à sortir des ténèbres pour aller à son admirable lumière. C'est le premier pas. Sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. Sortir des ténèbres pour marcher dans la lumière, pour vivre dans la lumière. Et pourquoi appeler des ténèbres à la lumière? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais les ténèbres, qu'est-ce que c'est? C'est une chambre noire? C'est la nuit? Au sens physique du terme, non. Les ténèbres, c'est le monde où règne le péché sous toutes ses formes, où règne le mal, l'injustice, le malheur, le péché, je le disais tout à l'heure, mais la parole de Dieu nous le dit, frères et sœurs, et nous l'avons vécu, nous le vivons chaque jour, Dieu nous a sortis, il nous a délivrés des ténèbres. Il a pardonné nos péchés, c'est vrai, 1000 fois vrai, mais il nous a délivrés de nos péchés. Pas seulement pardonnés, mais aussi délivrés de telle sorte que nous ne sommes plus, par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne devons rien au diable, nous ne devons rien à ce monde, nous ne devons rien à la chair, Dieu nous a délivrés, que Dieu soit béni. Et dans Jean 12, 46, il est écrit, « Je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'il ne vole plus, qu'il ne triche plus, qu'il ne ment plus, car c'est regrettable. Si l'on rencontrait un chrétien qui mente, ce serait regrettable de rencontrer un chrétien qui chaparde, qui vole, qui triche. Dire, mais elle est où sa vie chrétienne? Quelle couleur elle a sa vie chrétienne? Est-ce que c'est un vrai chrétien ou il fait semblant d'être chrétien? Non, un chrétien, il est pur. Alléluia, il est pur. Il préfère souffrir que mentir. Il préfère souffrir que voler. Il préfère être dans le besoin de la nudité plutôt que de chaparder quoi que ce soit pour se faire plaisir. Non, il vit dans la lumière et il ne vit pas dans les ténèbres. Et c'est pourquoi dans l'épître de Pierre, il est écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tous nos péchés. Nous avons donc été délivrés de la puissance des ténèbres et amenés à la lumière. Pourquoi faire? Je le disais tout à l'heure, en d'autres termes, pour annoncer les vertus de celui qui nous a sortis des ténèbres. Nous avons été délivrés pour annoncer les vertus de celui qui nous a délivrés. Non pas les taire, non pas les cacher, non pas en avoir honte. Je n'ai pas honte de Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de la parole de Dieu. Je n'ai pas honte de l'Évangile, parce que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je ne peux pas en avoir honte, j'en suis fier. Alléluia! Je suis fier de Jésus-Christ, je suis fier de mon Sauveur, je suis fier de la croix sur laquelle il est monté pour le salut de mon âme, que son nom soit béni. Et nous avons été délivrés, non pas pour jouir égoïstement du salut et se dire en se frappant la poitrine, je suis heureux car Jésus m'a sauvé, point barre, non! Je ne suis pas sauvé pour moi-même. Je ne suis pas sauvé pour jouir égoïstement de ce salut et pour dire que je suis heureux, le Seigneur a touché mon cœur, je suis heureux, mon nom est inscrit dans le livre de vie, gloire à Dieu. Non, pas seulement cela. Oui, c'est ça, bien sûr, d'abord. Mais je suis sauvé pour être un instrument entre les mains du Seigneur. J'ai toujours dit, et ça fait bientôt 60 ans que je le dis parce que j'ai 60 ans de conversion, je ne veux pas être le dernier maillon de la chaîne. Il y a un maillon, c'était en 1960, qui s'est accroché à moi, il m'a accroché à la chaîne qui m'a précédé, et je suis devenu chrétien, mais je ne veux pas être le dernier maillon de la chaîne. Je veux qu'il y ait d'autres maillons qui s'accrochent derrière et qui suivent le chemin que j'ai suivi jusqu'à présent. Annoncer les vertus de celui qui nous a sortis des ténèbres. Alors une question se pose, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et quelles sont ces vertus de celui qui nous a délivrés? Quelles sont-elles ces vertus? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ces vertus, le premier entre tous, le premier qui les englobe tous, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est universel. Je ne saurais jamais dire « Dieu m'a aimé ». Dieu nous a aimés. Dieu ne m'a pas aimé à moi tout seul, ou à nous tout seuls, mais Dieu nous a tous aimés. La Bible dit, et c'est Jean qui le dit en Jean 3,16, c'est Jésus, pardon, qui le dit en Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde ». Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Tous les êtres humains, l'humanité tout entière, depuis le premier, c'est-à-dire Adam, jusqu'au dernier, je ne connais pas son nom, il n'est pas encore là, mais toutes les générations, Dieu a tant aimé le monde. Tous les hommes appartenant à toutes les générations, à toutes les couleurs, à toutes les races, à tout ce que vous voudrez, Dieu a tant aimé le monde. Son amour est universel. Je ne connais personne qui aime de cette manière-là, qui aime les hommes de manière universelle. Ça, c'est la première de ces vertus, un amour universel, que c'est bon de savoir que Dieu ne fait pas de distinction, ne fait pas de différence, que Dieu n'est pas raciste, que Dieu n'aime pas les uns pour rejeter les autres, pour se détourner des autres, pour faire fi des autres. Non, Dieu a tant aimé le monde d'un amour universel, mais d'un amour éternel. Dans Jérémie 31,3, il est écrit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Un amour éternel. Il n'est pas comme ceux qui disent « Oh, je t'aime aujourd'hui, demain je ne sais pas. Aujourd'hui ça va, demain je ne sais pas. » Et le Seigneur, son amour n'a pas de limite, il n'a pas de temps. Il aime de manière éternelle. Je dirais également que l'amour de Dieu, il est éternel, universel, éternel, mais il est également généreux. Alléluia! Dieu n'est pas radin. Dieu n'est pas chiche. Il est généreux. Et comment puis-je le prouver qu'il est généreux? Comment vous le dire? Quelqu'un a dit, Dieu n'avait qu'un fils. Il aurait pu sacrifier un apôtre, un grand apôtre comme Paul ou autre. Il aurait pu le donner en sacrifice, mais il ne nous aurait pas sauvés. Il aurait pu donner, que sais-je, un ange, un archange, un chérubin, un séraphin, pour sauver notre âme, mais il ne l'aurait jamais pu nous sauver. Dieu n'avait qu'un fils, son fils unique, et dans sa générosité, il n'a pas regardé au prix à payer, mais il a donné son propre fils. Mieux, plus grand encore, l'apôtre dit, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. On peut dire que le Seigneur a été tellement généreux qu'il est monté en Jésus-Christ sur le bois du calvaire. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il n'a pas regardé à la dépense. Il n'a pas regardé à l'effort, il n'a pas regardé aux limites de la souffrance, mais Jésus a souffert la pire des souffrances sur le bois du calvaire, que son nom soit béni. Il est généreux, il va au-delà de toute attente, au-delà de toute espérance, au-delà de toute pensée. Jamais au grand jamais nous n'aurions pu et nous n'aurions jamais pu dire, Seigneur, meurs pour nous, donne ta vie pour nous. Non, je considère que c'est une erreur judiciaire, que la mort de Jésus sur la croix, c'est une erreur judiciaire, mais une erreur cherchée, voulue et accomplie. Une erreur, Jésus, pourquoi une erreur judiciaire? Tout simplement parce que c'est le juste qui est mort pour le pécheur. Le juste est mort pour le coupable. Mais c'est une erreur judiciaire voulue qui ne devient plus une erreur, mais une réalité. Il est généreux. Dans Malachie 3,10, il est écrit « Mettez-moi donc à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux et ne répandrai-je pas sur vous mes bénédictions avec abondance. Mettez-moi à l'épreuve. » Et l'apôtre Paul écrira en disant, demandez, vous recevrez. Et le Seigneur répandra sur vous sa bénédiction avec abondance. Ce sont ces vertus-là. Une autre vertu du Seigneur, de Dieu, c'est sa toute-puissance. Sa toute-puissance, puissance illimitée. Quand il parle à ses disciples ou à ceux qui viennent à lui, tant paralysés, tant aveugles, tant très mal en point, et qui ont des doutes dans leur cœur, il leur dira ce qui est impossible aux hommes. Et Dieu sait s'il y a des choses qui nous sont impossibles. Ce qui est impossible aux hommes, Y a-t-il des choses qui vous sont impossibles? Ne répondez pas tous à la fois. Bien sûr qu'il y a des choses qui nous sont impossibles. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que tout est possible à Dieu. Oui. Quand on lit les évangiles, on est obligé de constater et de confesser que tout est possible à Dieu. Quand je vois Jésus allant de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui, il guérissait tous ceux qui s'approchaient de lui. Il ressuscitait les morts, faisait marcher les paralytiques, il ouvrait les yeux des aveugles, il faisait entendre les sourds, il purifiait le lépreux. Que Dieu soit béni, et la parole de Dieu me dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous le croyez? Il ne change pas. Nous, nous changeons. Nous changeons très vite de chemise. Nous changeons d'avis comme de chemise, comme dit le proverbe. Mais lui ne change pas. Que son nom soit béni. Une autre vertu qui appartient au Seigneur et à lui seul, c'est l'ubiquité. L'ubiquité ou l'omniprésence de Dieu. L'ubiquité. Il est partout à la fois. Et ça me rajeunit de savoir que le Seigneur est partout parce que je n'ai pas besoin de faire de pèlerinage pour le rencontrer. Je n'ai pas besoin d'aller ici ou là pour prier le Seigneur. Il est là où je suis. Amen. Hein, je suis là où je suis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une de ses vertus que d'être partout. Il est omniprésent comme il est omniscient, comme il est omnipuissant. Que Dieu soit béni. Un autre appel, parce que c'est de cela qu'il s'agit dès le début, de l'appel, de la vocation. Et ne m'en veuillez pas si cela peut ne pas vous convenir. Un autre appel, une autre vocation, je préfère lire le texte, même si j'ai de la peine à le trouver avec mes doigts tordus. J'ai mis des entrepages là. Voilà, celle-là. Ah, j'ai mis quelque chose. Dans 1 Pierre 2, 20 et 21. 1 Pierre 2, 20 et 21. Voilà. Serviteurs, à partir du verset 18, serviteurs, soyez soumis à toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, ça existe, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites du bien, c'est à cela que vous avez été appelés. C'est votre vocation. Vous supportez la souffrance lorsque vous faites du bien, c'est votre vocation que de souffrir pour le bien que vous avez fait. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Et à n'en pas douter, nous sommes obligés de dire que Jésus, je le disais tout à l'heure en parlant d'erreurs judiciaires, que Jésus a souffert injustement. Il n'a rien fait pour mériter la croix. Il n'a rien mérité, il n'a rien fait pour mériter les injures, les insultes. Il a souffert injustement, mais il a accepté pour le seul drame. Il a accepté pour nous donner un exemple, que de souffrir injustement. Et cela peut arriver, et malheureusement, ça arrive, on le voit dans les pays, dans les champs missionnaires, que des chrétiens souffrent injustement. Leur seul crime a été de parler de Jésus, d'annoncer Jésus. Ils annoncent Jésus, pour eux c'est un crime, pour beaucoup c'est un crime. C'est une chose à ne pas faire, et j'en sais quelque chose. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est à cela que nous sommes appelés. C'est notre vocation. Si nous souffrons injustement, eh bien, ça fait partie de la normalité. Si nous souffrons pour une chose méritée, à cause du mal qu'on a fait, bien, ce n'est que justice. Il ne faut pas s'en plaindre. Mais la souffrance est juste, alors encore moins, bien sûr, et on crie à l'injustice. Mais quand on souffre pour le Seigneur, la parole de Dieu nous dit d'une manière étrange, et ça me paraît étrange, mais je ne le crois pas, c'est écrit. C'est une grâce qui nous est faite quand on souffre injustement. C'est une bénédiction de Dieu quand on souffre injustement pour avoir annoncé l'Évangile, pour avoir témoigné pour Jésus. Souffrir pour le Seigneur injustement, ça fait partie de notre vocation, ça fait partie de l'appel de Dieu pour nous, souffrir pour le Seigneur comme il a souffert pour chacun de nous, que son nom soit béni. Nous n'avons pas et nous ne pouvons pas et nous ne le ferons pas que de nous plaindre parce que nous avons rendu témoignage, parce que nous avons parlé de Jésus. Alors on peut nous insulter, on peut nous cracher dessus, on peut nous battre, on peut nous jeter en prison, on peut même nous crucifier comme on l'a fait pour Jésus, bien sûr. Mais on ne peut pas s'en plaindre, parce que c'est notre tâche, c'est notre vocation, c'est notre appel. Nous sommes appelés à parler de Jésus. Autrement, permettez-moi de vous poser la question, mais je ne vous demanderai pas de répondre, si nous ne passons pas par là, mais que faisons-nous sur la terre? Que faisons-nous sur la terre? Après nous être convertis, le Seigneur aurait mieux fait que de nous laisser traîner sur la terre et ne rien faire. Il aurait mieux fait de nous embarquer et de nous dire maintenant que tu es sauvé, eh bien, rentre dans la maison paternelle. Mais non, ce n'est pas sa volonté. Sa volonté est que nous restions sur la terre pour mettre nos pieds dans l'empreinte des pas de Jésus, pour marcher comme il a marché, pour servir comme il a servi, pour souffrir comme il a souffert, que son nom soit béni. Dans 1 Pierre 3, et versets 8 et 9, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. C'est votre vocation de bénir. Alors, vous hériterez la bénédiction. Vous savez, dans le monde, il y a des principes, il y a des lois que les hommes suivent. Aveuglément. La loi du talion, par exemple, qui consiste à rendre le mal pour le mal, œil pour œil, dent pour dent, meurtrissure pour meurtrissure. C'est la loi du talion et ça existe. Ou alors, il y a ce que dans certaines régions de France et de Navarre, on appelle la vendetta. La vendetta qui consiste à se venger de génération en génération, à se venger de ce qui a été fait à tel moment dans telle famille. Et on ne l'oublie pas. Mais ça, c'est l'homme. C'est la nature de l'homme qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas la grâce de Dieu, qui ne connaît pas l'amour de Dieu. Alors il cherche à se venger. Ah, si le Seigneur faisait pareil. Mais cela n'a jamais rien apporté à personne que de se venger, que de pratiquer la vendetta et d'inciter les siens à en faire de même. Non. Ça n'apporte aucune solution, ça n'a jamais apporté aucun remède. Nous avons une autre mission. Nous avons une vocation. Nous sommes appelés à la bénédiction. Amen. Nous sommes appelés à la bénédiction. Nous sommes appelés à bénir. Nous sommes appelés à bénir les autres. C'est notre vocation. Mon frère, ma sœur, tu as le pouvoir de bénir ton entourage. Tu as le pouvoir de bénir ceux qui te font du mal. Bénissez, dit la parole de Dieu, vos ennemis, vos bourreaux. Aimez vos ennemis, bénissez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maudissent ou qui vous persécutent afin d'hériter la bénédiction. C'est notre responsabilité. On ne se rend pas toujours compte de la responsabilité qui pèse sur nos épaules. Il y a autour de nous des gens qui cherchent à mordre. Ils sont méchants. Ils sont animés de mauvais esprits, bien sûr. Et nous en avons peur. Mais la parole de Dieu nous appelle à les bénir. Même s'ils nous regardent de travers. Même s'ils cherchent à nous nuire. Nous sommes appelés à les bénir. Amen. Quelqu'un vous insulte. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui répondez pareil? Ou vous lui dites que Dieu te bénisse? Quelqu'un vous regarde de travers? Quelqu'un vous dit un mot méchant? Cherchez pas à lui répondre de la même manière. Dites-lui au contraire que Dieu te bénisse. La parole de Dieu nous dit afin d'hériter la bénédiction. Et la parole de Dieu nous dit car celui qui arrose, vous connaissez la suite? Sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je me souviens de cette anecdote qu'un frère dans le ministère avait racontée. Il était dans son jardin, en train d'arroser son jardin. Alors il arrosait ses plantes, ses fleurs, il arrosait, et puis tout à coup, plus d'eau. Plus d'eau qui sortait du tuyau, il n'y avait plus rien qui sortait. Alors il a regardé le tuyau, et en regardant le tuyau, pam, il a été arrosé. Pourquoi? Parce que son fils avait plié le tuyau. Et quand lui, il a regardé le bout du tuyau, son fils a déplié, et chac, il a été arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé, bien sûr. Nous sommes appelés, c'est notre vocation, à bénir, à faire en sorte que même les gens qui nous traitent de tous les noms, qui nous font du tort, eh bien, nous sommes appelés à les bénir. Nous sommes appelés, c'est notre vocation, et Dieu travaille en nous et à travers nous par deux moyens. Dans Deutéronome, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par nous. C'est votre vocation. C'est à quoi il vous a appelé par nous, par notre évangile, pardon, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification et par la foi en la vérité. Le Seigneur travaille dans notre cœur. Le Seigneur travaille dans notre vie et il voudrait avoir la liberté de le faire encore davantage et plus profondément. Il le fait par deux moyens différents. Par la sanctification de l'Esprit. Le Saint-Esprit a pour mission de nous sanctifier, de nous purifier, de nous perfectionner, à condition que nous le laissions faire et que nous obéissions à ses injonctions. C'est sa mission, de nous purifier. Et nous avons besoin d'être purifiés, nous avons besoin d'être sanctifiés. Tant que nous serons sur cette terre, nous aurons besoin de l'aide de Dieu pour marcher selon sa volonté. Et par la foi en la vérité. L'apôtre Jean dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est Jésus qui le dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. c'est aussi notre vocation. Nous sommes appelés à être totalement affranchis de tout esclavage. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est notre vocation, c'est ce à quoi nous sommes appelés, à être complètement délivrés, débarrassés, détachés de tout lien de la chair et du monde. Que ne soyons plus esclaves de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, je le suppose. En tout cas, je me souviens, j'aimerais vous raconter mes premières expériences avec le Seigneur. J'étais en train de m'approcher petit à petit du Seigneur, je lisais sa parole très souvent, bien sûr, et je suis tombé sur des textes comme celui-ci, par exemple, « Chacun est esclave de celui à qui il obéit. » Ça paraît logique. « Chacun est esclave de celui à qui il obéit. » Et je fumais comme un pompier, je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais je fumais beaucoup. Jusqu'à 2 paquets de cigarettes par jour. 40 cigarettes par jour. Et un jour, je me souviens, dans la salle à manger chez moi, j'étais en train de fumer, et cette parole de l'Écriture m'est revenue à l'esprit. Chacun est esclave de celui à qui il obéit. Et j'ai pris mon mégot entre les doigts, et je lui ai parlé. Eh oui, j'ai parlé à la cigarette, j'ai parlé au mégot, un petit bout de cigare encore incandescent, et je lui ai parlé, et je lui ai dit, dire que tu es le patron, que tu es le maître, et que je suis obligé de t'obéir, c'est pas normal, je ne peux plus. Hein? Eh oui, chacun est esclave de celui à qui il obéit, et j'obéissais, inconsciemment ou consciemment, peu importe, à un mégot de cigarette. Qu'est-ce que c'est qu'une cigarette? Un bout de papier avec de l'herbe dedans, c'est tout. Ben oui. C'est pas grand-chose, mais ça faisait de moi un esclave. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et la parole de Dieu m'a affranchi de l'esclavage du tabac. C'était ma vocation, le Seigneur l'a accompli. Pour conclure, je citerai un verset dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2 et verset 6, où il est écrit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé et affermi par la foi. » Comment avons-nous reçu le Seigneur? Par la foi. Nous avons cru. On nous a demandé de croire. Et nous avons cru. Nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons cru qu'il existait, nous avons cru qu'il était mort pour nous sur le bois du calvaire, et nous avons cru qu'il était avec nous. Et la parole de Dieu nous dit, comme vous avez reçu le Seigneur, eh bien, marcher en lui, étant enraciné, fondé et affermi par la foi. Pour affermir notre vocation, et c'est notre objectif, affermir notre vocation, affermir notre appel, rester ferme à ce qui nous a été demandé, il faut rester attaché, fermement attaché au Seigneur, quelles que soient les circonstances que nous pouvons traverser. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours adéquat. Nous pouvons avoir des moments faciles, mais malheureusement, nous sommes sur terre et il y a des moments difficiles. Et ces moments difficiles ne doivent pas pouvoir nous ébranler. Ébranler notre foi, ébranler notre confiance en le Seigneur, ébranler notre attachement à la personne du Seigneur. Non, 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 1000 fois non. Nous restons attachés au Seigneur, quoi que puissent être nos problèmes, nos difficultés, nos souffrances, nos maladies, etc. Quoi qu'il en soit, je suis enfant de Dieu et je reste enfant de Dieu et je continue à servir le Seigneur. Que son nom soit béni. Amen. Nous voulons bénir et louer ton nom, Seigneur, de tout notre cœur pour la vocation que tu nous as adressée. Merci, Seigneur, d'avoir touché nos cœurs à salut, d'avoir inscrit notre nom dans ton livre de vie et de nous avoir appelés à marcher avec toi, à mettre nos pieds dans l'empreinte de tes pas, pour marcher comme tu as marché toi-même, dans les jours faciles comme dans les jours difficiles, dans les jours où la lumière brille ou dans le jour où il fait sombre. Seigneur, nous voulons être fidèles. Merci de ce que jusqu'ici l'Éternel nous a secourus et nous bénissons ton nom parce que nous savons que celui qui a commencé en nous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. À ton nom, Seigneur, soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne au siècle des siècles. Amen.